Bon, on peut avoir un petit quiz hein, avant qu'on commence. Vous savez, il y a combien de Joseph trouve-t-on dans la Bible? Il y a combien de Joseph? On peut énumérer? Il y a combien de Joseph dans la Bible? Il y a un Joseph ici, mais sinon, dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a combien de Joseph? Trois. Mais vous pouvez dire, c'est qui? Le premier se trouve dans quel livre? Pardon? Joseph, le fils de Jacob, on trouve dans le livre de Genèse. Après, le père adoptif de Jésus, Joseph, l'époux de Marie. OK. Deux, Joseph d'Arimathée. OK. On trouve à la fin de notre Seigneur, hein, la vie de notre Seigneur. Et d'autres Joseph, vous voyez? L'un des demi-frères de Jésus, il s'appelait Joseph aussi. L'un des demi-frères de Joseph, n'est-ce pas, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, José, c'est Joseph. José, de Jude et de Simon. De Simon, Marc 6, 3, si vous voulez, hein. Et d'autres? D'autres Joseph? L'un des candidats pour remplacer Judas en tant qu'apôtre. Et acte 1, 23, ils se présentèrent d'eux, Joseph appelé Barnabas, Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Il y a deux personnes, non? Donc, l'autre s'appelle Joseph, qui s'appelait Barsabas. Et après, vous trouvez encore? Dans le livre d'Actes encore? Actes 4, 36. Un lévite de Chypre, Barnabas, qui mérite probablement d'être répertorié parmi les Joseph. Bien connu, sauf qu'il est presque toujours appelé Barnabas à la place. Donc, le nom de Barnabas, c'est Joseph. Et aussi, l'un des fils d'Asaph, Asaph qui a écrit plusieurs psaumes, hein, lui, il s'appelle Joseph aussi. Donc, Joseph, c'est un nom assez courant dans la Bible. Hein. On trouve plusieurs. Il y en a d'autres dans la généalogie de Jésus-Christ aussi. On trouve Joseph. Mais aujourd'hui, on va voir sur le Joseph que la sœur Hélène elle a dit, Joseph d'Arimathée. Et souvent, c'est comme on passe comme un détail. Quand on lit de Joseph d'Arimathée, on dit oui, il a demandé le corps de Jésus-Christ, il l'a mis dans le tombeau, il a donné son tombeau, et c'est tout. Hein. Mais je pense que c'est bien d'arrêter avec. Pour voir ce qu'il a fait. Donc, on peut prendre Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 60. Matthieu, chapitre 27. Et dans les quatre évangiles hein, synoptiques, on trouve sur Joseph d'Arimathée. Dans les quatre, tous les quatre évangiles, on trouve. Pas beaucoup, mais 3-4 versets, 2-3 versets sur cet homme, ce qu'il a fait. Donc Matthieu 27, 57 à 60. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Mais je ne sais pas, on sait que c'était un disciple de Jésus. Et 58, il se rendit vers Pilate. Et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Voilà. Donc, on peut lire en. Pas maintenant, mais Marc 15, 42, 46, Luc 23, 50 à 53, et Jean 19, 38 à 42 aussi. Nous lisons sur cet homme, Joseph d'Arimathée. Donc, souvent, lorsque nous traitons des circonstances entourant la crucifixion de notre Seigneur, nous sommes d'une manière générale élogieux envers les femmes, disciples de Christ, et condamnant les hommes. Et ce n'est pas sans raison. Hein, mais souvent, nous lisons que, nous disons que les femmes étaient les premières pour aller voir le Seigneur le jour de la résurrection. Hein, les femmes étaient près de la croix quand le Seigneur était crucifié aussi. Mais les hommes, on ne parle pas. Nous regardons les femmes debout au pied de la croix, fidèles à leur Seigneur rejeté et apparemment prêtes à risquer la colère du peuple. Nous voyons les femmes suivre le petit cortège funèbre pour voir où le corps de Jésus a été déposé. Plus tôt le matin, le premier jour de la semaine, venant alors qu'il faisait encore nuit, apportant les aromates qu'elle avait préparés, comme ils ont dû aimer le Sauveur et comme ils sont dignes d'éloge. Oui, la Bible parle des femmes qui étaient là pour, pendant la crucifixion et après la mort de Christ aussi, c'est les femmes. Et Jésus dit à ces femmes que « Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. » Et donc, au milieu de l'obscurité qui entoure l'événement lié à la mort de Christ, au moins un homme, Joseph d'Arimathée, brille comme un phare. Tout ce que les Écritures ont à dire de lui se trouve dans le passage que je viens de citer. Très souvent, nous semblons avoir largement ignoré cet homme, Joseph d'Arimathée. Nous entendons rarement un sermon ou une étude sur cet homme, Joseph d'Arimathée. Matthieu nous dit que Joseph était un homme riche, hein, nous venons de lire, un homme d'aisance, dont la richesse a été utilisée pour Christ. Il avait l'argent, il était riche, mais il a utilisé ses biens pour Jésus-Christ. Et Marc nous dit que Joseph était un conseiller honorable, un homme d'influence. Et le récit révèle que Joseph a sacrifié son prestige auprès d'hommes pour l'amour de Christ. Et certainement, cet homme, il était un pharisien. Hein? Il était un des pharisiens. Donc, il avait la place dans le Sanhédrin. Donc, il avait un grand respect parmi son peuple. Il avait un grand estime parmi son peuple. Mais ce qu'il a fait pour le Seigneur, certainement, ça fait tout perdre qu'il avait dans la société, dans son communauté. Certainement. Et l'évangéliste Luc nous dit que Joseph était un homme bon et un homme juste. Je pense que par rapport à Barnabas, il y a quelque chose qui est dit comme ça. Il était un homme bon qui encourageait tout le monde. Un fils de consolation ou quelque chose comme ça. Donc Luc dit que c'était un homme bon et un homme juste et intègre, qui a montré sans crainte son vrai caractère pour Christ. Et Jean déclare qu'il était un disciple, un homme de foi, et qu'il est considéré comme un fidèle disciple du Christ. Mais par contre, nous ne voyons pas ce Joseph pendant la vie de Jésus-Christ. Nous ne nous entendons rien du tout par rapport à cet homme. Et c'est afin, quand Christ il est mort, cet homme il s'apparaît, il vient dans la scène. De même que le nom Joseph signifie celui qui augmente, de même Arimathée signifie les auteurs, auteur. Arimathée, c'est certainement c'est Rama, vous savez, où dans le livre de Samuel, je crois, on parle de Rama. Et donc, selon son nom, il grandissait chaque jour dans sa connaissance de l'esprit et de la volonté de Dieu. On se souvient des paroles du Sauveur dans Matthieu 6, 19, 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous le trésor dans le ciel. Et Paul aussi, il contribue la même pensée en Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc cet homme, on sait qu'il était riche, mais il avait gardé ses biens pour dépenser, pour sacrifier pour Jésus-Christ. Il n'a pas gardé pour lui-même. Tout d'abord, remarquons la fidélité de Joseph. Luc rapporte que ceux-ci n'avaient pas consenti à leur conseil et à leur action. C'est-à-dire, il était dans le Sanhédrin, mais il n'était pas d'accord avec leur décision de crucifier, de tuer Jésus-Christ. Il n'était pas d'accord. Mais est-ce que nous avons ce courage pour opposer le monde entier? Quand je parle le monde entier, c'est le monde qui est autour de nous. Est-ce que nous avons le courage pour dire, imaginez sa position à cette période. Tout le monde était contre Jésus-Christ. Mais il n'était pas d'accord avec les dirigeants quand ils sont complotés et planifiés de mettre le Christ à mort. Il avait tenu conseil contre lui. Mais Joseph, bien que membre de Sanhédrin, n'a pas pris part à ce conseil. Lorsque Hur a réussi à crucifier le Sauveur et que l'acte ignoble fut accompli, personne ne peut dire que Joseph avait participé à cet acte. Nous voyons nullement Joseph d'Arimathée participer dans la crucifixion de Jésus-Christ, dans la décision pour mettre sur la croix. Les disciples déclarés du Christ étaient enfuis pour sauver leur vie. Les douze apôtres, ils n'étaient pas là. Bien que Judas Iscariot, il a trahi, il est parti. Mais les onze autres, nous ne voyons pas. Mais Joseph d'Arimathée, il était un disciple secret. Il était un disciple de Jésus-Christ, mais secret. Il était fidèle à son Seigneur, prenant position avec le Christ rejeté et se préparant à tout ce qui pourrait arriver. Ce jour-là, Joseph a montré par des actions qui parlaient plus fort que des paroles qu'il était du côté de Christ. Il était au côté de Christ, il était fidèle. Nous devons être fidèles dans notre témoignage, fidèles dans notre intendance des choses que Dieu nous a confiées, fidèles dans l'usage que nous faisons du temps, des trésors. Je pense qu'on n'a pas de trésor, notre argent. Et de la vérité, fidèle dans ce qui est le plus petit, car c'est pour la fidélité que nous serons récompensés. Et le Seigneur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et donc, la fidélité de cet homme, elle était mise en épreuve dans le Sanhédrin quand tout le monde voulait crucifier Jésus-Christ, et Joseph, il n'était pas d'accord. Il n'a pas participé dans cette décision. Et après, on voit le courage de cet homme. Marc, il enregistre dans son épître, évangile. Voici ce qu'il dit. Joseph d'Arimathée osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Jésus, il est mort. On voit aucun de ses disciples. Ils ont disparu complètement. Et tout est fini pour tout le monde. Mais Joseph, et nous voyons que le corps de Jésus-Christ, il était toujours sur la croix. Il était pendu sur la croix. Et le sabbat était proche. Donc il faut absolument qu'il enlève le corps. Sinon, les soldats romains, ils vont débarrasser le corps de Christ de leur façon. Mais Joseph d'Arimathée, il ne voulait pas que ça passe ainsi. Et donc, ce qu'il va faire, il va aller vers Pilate pour demander le corps de Christ. Nous voyons le courage de cet homme ici. Le bon sens aurait dû lui dire que Pilate était un homme à éviter. Il avait condamné un homme qu'il avait déclaré innocent. Il s'était laissé faire chanter par les Juifs qu'il méprisait. Il avait rejeté la supplication de sa femme de ne rien n'avoir affaire avec une personne juste. Il était peut-être frustré contre lui-même pour son action ce jour-là. La discrétion aura suggéré à Joseph d'Arimathée d'attendre ou d'employer un intermédiaire ou même d'utiliser sa fortune pour acheter une faveur. Mais non, il fallait du courage et Joseph entra hardiment auprès de Pilate. Et pourquoi? Pour son Seigneur. Il était un disciple secret, mais là, il a ramassé le courage pour aller voir cet homme Pilate. Il a presque risqué sa vie. Il a risqué sa vie, son honneur, tout. Il a peut-être pris sa vie entre ses mains, risqué tout ce qu'il avait. Comment nous situons-nous en matière de courage? Souvenez-vous de Moïse qui a abandonné l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi. Rappelez-vous de Élie, lorsque les armées du roi le cherchaient pour le mettre à mort, il a dit, « Va le dire au roi, voici Élie est ici. » Vous vous souvenez? Il dit que « Va le dire au roi, voici Élie est ici. » La peur de l'homme nous pousse-t-elle jamais à garder le silence alors que nous devrions avoir l'audace de proclamer la puissance salvifique du Christ? Rappelez-vous de Paul en Romains 1, il dit « Je suis redevable. Hein? Je suis redevable, je suis prêt pour être mis à mort. » Et il a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Je n'ai pas honte de l'Évangile. Donc, il y a le moment dans la vie de chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Christ, d'oser, d'avoir le courage pour tenir ferme pour son maître. Et troisièmement, nous voyons son humilité. Le récit de la Bible nous dit que Joseph d'Arimathée demande le corps de Christ. Il supplia hardiment, peut-être on ne trouve pas le mot, mais presque comme un mendiant qui demandait le corps de Christ, il était allé pour plaider à Pilate pour avoir le corps de Christ. Il supplie hardiment à Pilate, un homme riche qui mendie. Il avait une position à maintenir. Il était un pharisien. Les pharisiens, des intouchables. Hein. Personne ne peut toucher ces gens-là. Hein. Ils sont la crème de la crème de la religion juive. Personne ne peut poser les questions, c'est eux qui posaient les questions. Même Jésus-Christ devrait poser les questions. Il avait une dignité à défendre. Il n'avait jamais eu à mendier de sa vie. Toute sa nature s'est rébellée contre ceux qui étaient sur le point de fer, mais il a abandonné son orgueil. Il a supplié le corps de Christ et la vie n'a plus jamais été la même pour lui. Il a supplié, il est allé voir Pilate, il a supplié Pilate pour le corps de Christ. L'humilité est une des vraies marques d'un chrétien. Le monde considère la douceur comme une faiblesse. Si on est humble, le monde il pense qu'il est faible. Si vous êtes humble, vous risquez d'être traité comme un paillasson et d'être piétiné. Mais les exhortations à l'humilité sont nombreuses et pressantes dans la parole de Dieu. Dieu dit, l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Et c'est vers cet homme que je regarderai, dit le Seigneur, vers celui qui est pauvre, qui a l'esprit contrit et qui craint ma parole. Le Nouveau Testament nous exhorte à être revêtus de humilité et à nous estimer les uns les autres mieux que nous-mêmes. L'apôtre Paul se considérait comme moins que le plus petit de tous les saints. La mère de Jacques et de Jean demanda au Seigneur qu'ils soient assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans son royaume. Les autres disciples n'étaient pas contents. Vous savez pourquoi? Ils étaient en colère, car ils convoitaient ces places pour eux-mêmes, chacun. Christ leur a dit à tous que le monde pense de cette façon. Mais il a dit que « Mais il ne sera pas ainsi parmi vous. » Il a dit « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Il n'y a pas beaucoup de candidats pour ce poste, pour être l'esclave. Mais ce que le Seigneur veut, que nous soyons l'esclave pour notre maître et renier complètement notre droit. Nous remarquons aussi sa dévotion. Hein? Et quatrièmement, nous, dans la vie de Joseph d'Arimathée, nous voyons sa dévotion pour le Seigneur. Marc raconte, et il a fait descendre, il a enveloppé dans le linge, dans un linceul. Des mains rudes et cruelles ont mis le Christ sur la croix. Des mains aimantes et douces ont descendu son corps. Les clous ont été enfoncés avec barbarie. Ils ont été sortis avec la douceur. Il semblerait que par sa dévotion, Joseph essayait de compenser toute la honte et l'indignité que des hommes avaient imputée à son Seigneur. Certainement, il était en train de voir ce qu'il faisait au Fils de Dieu. La cruauté, la barbarie avec laquelle il était traité. Le corps se pendait toujours, il était mort. Le corps pendait toujours. Le centenier, il est venu voir, il a constaté la mort. Le soldat romain, il a percé son côté, l'eau qui a coulé, il était certainement mort. C'était assuré. Hein? Quand les soldats, ils sont venus pour briser l'os de ses jambes, ils ont vu qu'il était déjà mort. Et Joseph essayait de compenser toute la honte et de l'indignité que les hommes avaient imputée à son Seigneur. N'est-ce pas Isaïe qui crie, « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. » Je ne sais pas quelle manière il voulait se débarrasser du corps de Jésus. Ce n'était pas seulement Jésus qui était crucifié. Ce n'était pas seulement ce jour-là était crucifié. Et c'était la punition capitale du système romain pour torturer au maximum, pour tuer des criminels. Donc plusieurs, certainement, ont été crucifiés. Hein. Et après, une fois qu'ils sont morts, ils devraient débarrasser le corps quelque part dans le monde de Golgotha. Certainement, ils sont préparés le tombeau d'un malfaiteur au pied de la croix. Mais il ne l'a jamais occupé. Nous vivons à des jours d'irrévérence, où même les chrétiens parlent à Dieu et de Dieu comme il était quelqu'un assis à leur côté, à côté d'eux. Dieu a fait de ce même Jésus à la fois Seigneur et Christ. Et il y a besoin de dévotion à la personne de Christ, de révérence lorsque nous parlons de lui et de reconnaissance de la dignité qui est la sienne. Le véritable amour dans nos cœurs y parviendra et notre attitude sera celle de Thomas. Thomas, il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu » avec dévotion. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est bon de se rappeler que lorsque les hommes ont cloué Christ sur la croix et après qu'il a eu enduré tout ce qu'il a enduré par des pécheurs, Dieu a dit, s'arrête là, jusqu'ici, et pas plus loin. C'est Dieu qui met la ligne, hein, la barrière. Il a laissé les hommes manipuler le Fils de Dieu de faire ce qu'il voulait faire. Mais Dieu, il avait gardé la limite. Il a dit, jusque là, jusqu'ici, et pas loin. Et les mains aimantes de Joseph ont descendu et ont enveloppé dans un linceau neuf. Il a acheté. Il est allé acheter et il a enroulé le corps de Christ avec dans un linceul. Et maintenant, voyez son sacrifice. Matthieu 27, 60 dit qu'il l'a déposé dans son propre tombeau neuf. Puis pour le juif, un tombeau était sacré, comme le montre l'histoire d'Abraham en relation avec la grotte de Macpéla, car c'est là qu'il enterrerait Sarah et en ferait le lieu de sépulcre familial. Hein, ça, c'est la coutume des Juifs dans l'Ancien Testament. Certainement, cet homme, il était riche. Il avait déjà acheté un tombeau neuf, hein, sculpté dans le rocher. Et certainement, c'était comme... Je ne sais pas comment il était, mais certainement, c'était... Ça signifiait sa richesse. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous lisons au sujet des enfants de Dieu, à la fin de leur vie, qu'ils dormaient avec leur père et qu'ils étaient enterrés avec la famille. Joseph, cependant, a abandonné son tombeau pour Christ. Il avait préparé quelque chose pour lui-même, mais quand l'occasion est venue, il a abandonné son tombeau pour Christ. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Marc nous dit qu'il acheta du linceul. Jean nous dit que lui et Nicodème ont apporté des aromates. Vous vous rappelez de Nicodème qu'on a trouvé, on trouve dans Jean chapitre 3, qui vient en secret dans la nuit pour rencontrer Jésus, un autre pharisien. Et ici, on voit Nicodème arriver. Et donc tous les deux, ils amènent l'aromate. Lui et Nicodème ont apporté des aromates d'un poids d'environ 100 livres. C'est beaucoup. Si la vase d'alabâtre de Marie, qui renfermait un parfum de nard pur, a coûté très cher, ce que la parole dit, hein, elle a brisé une vase de parfum de nard pur qui coûtait très cher, et c'est pourquoi il y avait des critiques. Pourquoi elle a gaspillé ça? On aurait pu vendre pour autant d'argent et pour aider les pauvres. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces 100 livres d'aromates de Joseph et Nicodème? La vérité est qu'il n'y avait rien que Joseph ne donnerait pas par amour pour Christ. Il se rendait cérémonieusement impur. Les Juifs, ils ne devraient pas toucher les cadavres. Vous savez, surtout les pharisiens, quand ils touchent les cadavres, il y a une cérémonie. Hein, et ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses. Il avait la Pâque dans 2 jours. Mais il a touché le corps de Christ. Il se rendit cérémonieusement impur en touchant un cadavre. Il mettrait même en péril sa place au Sanhédrin. Mais depuis qu'il a déclaré ouvertement son appartenance à Christ, ce qu'il a fait pour Christ, certainement il a perdu sa place dans le Sanhédrin. Les pharisiens, ils ne vont pas le laisser. Le Sanhédrin, c'était le conseil suprême de la nation juive. Ses anciens amis n'auront désormais plus rien à voir avec lui. Tous ses collègues, tous ses amis. Cette haute strata de la société, ils vont mettre à part. Son sacrifice lui a coûté, tout coûté. Comment nous positionnons-nous en matière de sacrifice? Mais souvent, nous mettons les choses pour nous, pour l'avenir, à côté. Est-ce que nous pourrons, quand le Seigneur il nous demande, est-ce que nous pourrons utiliser pour lui, sans réserve? Si nous donnons de notre abondance, nous ne sacrifions pas. Les Macédoniens donnaient volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Leur profonde pauvreté abonder jusqu'aux richesses de leur libéralité. Qu'est-ce qui les a poussés à faire? Paul dit qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et si nous ne nous donnons pas nous-mêmes, ce sera très difficile à donner quoi que ce soit pour le Seigneur. Nous devrions nous donner d'abord. Un chant tamoul qui dit que toi, tu n'appartiens pas à toi. Tu appartiens à Sauveur qui t'a sauvé. J'ai fait une traduction nulle, hein, mais c'est quelque chose comme ça, vous avez compris, je pense. Qu'est-ce que les a poussés à le faire? Paul dit qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Serait-ce là notre défaut? Souvenez-vous de la veuve qui a donné 2 pièces, dont le Sauveur a dit qu'elle avait donné plus que tous les riches, parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait, tandis qu'ils n'avaient donné que de leur abondance. Dieu s'intéresse à ce que nous avons laissé. Vous savez, dans l'histoire d'Ananias et Saphira, Et Pierre, l'apôtre Pierre, demande, est-ce que vous avez vendu la terre pour seulement ce montant? Parce qu'il savait qu'il y avait encore, ils sont laissés derrière. Est-ce que vous avez vendu le terrain pour ce montant seul? Donc Dieu s'intéresse à ce que nous avons laissé ainsi que ce que nous donnons. Comment notre sacrifice se compare-t-il à celui de Joseph d'Arimathée? Puis nous remarquons sixièmement son exemple. Cet homme, c'est un exemple. Il est certain que l'exemple de Joseph d'Arimathée a influencé et enhardi Nicodème. Nicodème, jusque ce jour-là, il était dans l'ombre, un homme de la nuit, et tout d'un coup, il vient dans la lumière. Il a vu Joseph risquer hardiment la colère des autorités au nom de Christ, et savait qu'il devait faire de même. Et adaptant ses actes à ses pensées, il prit sa place hardiment et ouvertement, côte à côte avec Joseph d'Arimathée. Comme pour Joseph, les choses ne seront plus jamais les mêmes, et ainsi pour Nicodème. Quel genre d'exemple sommes-nous? Encourageons-nous les gens à venir pour Christ ou notre exemple les empêche-t-il? Et j'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est à cause des chrétiens que j'entre pas dans une église. Je ne sais pas, certainement vous aussi vous avez entendu. À cause des chrétiens, je ne veux pas venir à l'église. Mais quel type d'exemple sommes-nous? Est-ce que nous encourageons, est-ce que nous attirons les gens de venir? Le Seigneur, il a dit, venez, le psalmiste, il dit que sentez que l'Éternel est bon. Hein, si on est en train de manger un fruit délicieux, et des autres devraient avoir envie de manger ce fruit. Mais je ne sais pas si les gens ils voient notre tête, mais ça devrait être répulsif. Encourageons-nous les gens à venir pour Christ où notre exemple les empêche. Paul écrivait à Timothée, il dit, « Sois un exemple pour les croyants en parole, en conversation, en charité, en esprit, en foi et en purité. » Sois un exemple pour les croyants en parole. Ça, on fait très bien. En parole, on est très fort. En conversation, de manière de vivre. En conversation, ce n'est pas notre conversation. Notre manière de vivre. En charité, dans l'amour. En esprit, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, 12. Nous sommes soit de bons ou de mauvais exemples. Christ a dit, quiconque offensera l'un de ses petits qui croit en moi, il vaut mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue à son cou et qu'il soit jeté dans la mer. Marc 9, 42. Quel exemple puissant Joseph était. Il apparaît très brièvement, cet homme. Après, on ne voit plus non plus. Hein. Très brièvement. Si nous étions comme lui, cela pourrait être inscrit dans le ciel à notre crédit. Puis vinrent les enfants, les collègues, les voisins, etc. Donc, quand nous allons entrer dans la présence du Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui vont nous suivre comme Nicodème a suivi Joseph d'Arimathée? Enfin, remarquez sa foi dans Marc 15, 45. Pilate, en décrivant le corps de Christ, utilise le mot, en grec, c'est « ptoma », qui signifie un cadavre. Quand Joseph parle du corps, il utilise le mot « soma », le mot utilisé pour désigner un corps vivant. Quand le Seigneur Jésus a parlé de sa mort, personne n'a compris sauf Marie. Vous vous rappelez? Quand le Seigneur il a parlé de sa mort, personne n'a compris sauf Marie. Elle a oint pour le jour de son ensevelissement. Et Jésus lui-même, il a dit, ce qu'elle fait, elle fait pour le jour de mon ensevelissement. Il a aussi parlé de sa résurrection, et peut-être que personne n'a compris. À l'exception de Joseph, en plaçant le corps dans son tombeau, a probablement cru qu'il ressusciterait. Et le psalmiste dit, « Tu ne laisseras pas mon âme dans l'enfer, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. » Joseph aurait pu le comprendre. Si nous voulons grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quel meilleur exemple pourrions-nous suivre que cet homme appelé Joseph d'Arimathée? Ce sont les choses que nous caractérisent la fidélité, le courage, l'humilité, la dévotion, le sacrifice et l'exemple qu'il était et sa foi. Que le Seigneur nous aide à imiter ses serviteurs qu'on trouve dans sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cet exemple que tu nous as laissé dans ta parole. Seigneur, cet homme que nous connaissons moins, Seigneur, parfois nous passons comme un détail dans les histoires de ta mort et ta résurrection. Mais nous voyons que cet homme, il a tant fait pour toi, tant osé pour demander ton corps aux autorités romaines. Seigneur, il n'a pas trouvé ça comme une honte d'être auprès de toi. Seigneur, nous te prions que tu nous aides, Seigneur, à être des disciples pour toi, dans la lumière, sans honte, sans crainte, dans tout le temps. Seigneur, nous te prions que tu bénis notre vie. Tu nous fais briller, Seigneur, comme de lumière dans ce monde ténébreux. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous ici. Dans le Saint-Nom de ton Fils bien-aimé, nous prions tout cela. Amen.